que Marie, femme de Clopas, ces femmes qui n'abandonnent jamais. Si vous êtes un homme, prenez exemple sur elles, parce qu'elles ont beaucoup de choses à nous apprendre. Nous, les disciples qui, des fois, faisons des discours enflammés en disant « Seigneur, on t'abandonnera jamais ». Mais quand vient l'incroix et que l'épreuve est là et qu'on ne comprend plus le plan de Dieu, il n'y a plus grand monde devant la croix. Et c'était Jean qui s'était retrouvé tout seul et c'est lui qui nous a écrit ce petit verset que l'on lit dans Jean 19, 25. On termine aujourd'hui la série sur ces femmes qui n'abandonnent jamais. Priez pour moi parce que je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est une femme très méconnue et du coup c'est celle qui m'a posé le plus de soucis, qui m'a fait travailler le plus. J'ai passé des heures, j'ai terminé presque à 2 heures du matin parce que j'ai jamais eu autant de mal à essayer de synthétiser pour que ça soit clair pour vous. On va devoir faire des généalogies, on va devoir utiliser votre cerveau. Je sais qu'il est tôt, mais là, j'ai vraiment besoin de vous. Et encore, plutôt à 9 heures, c'est mieux parce que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà votre Bible. Si jamais il y a quelqu'un qui connaît très peu sa Bible ce matin, excusez-moi, ça va être dur. Ça va être dur. Des fois, c'est vrai qu'il y a des prédications qui sont un peu toujours les mêmes. Et dans ce cas-là, c'est plus facile à comprendre. Il y a des prédications automatiques. Ça, ce n'est pas une prédication automatique. Il n'y a personne qui va sortir de ce lieu en ayant l'impression d'avoir rien appris. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais du coup, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. On est obligé de focaliser sur cette femme, la troisième Marie. On lit ensemble. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Bon, là déjà c'est bon, hein, on est d'accord. Sa mère c'était Marie, d'accord, la maman de Jésus. La sœur de sa mère, Marie femme de Clopas. Voilà le nom de la sœur de sa mère. Et Marie de Magdala. Un tout petit peu plus loin, dans un autre endroit, dans Marc 15, il nous est mentionné une quatrième femme qui était un petit peu plus loin. C'était Madame Zébédée, c'est Salomé Zébédée. Parce que dans Marc 15, 40, il dit « Il y avait là quelques femmes qui regardaient de loin, parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques le Jeune et de Josès, ainsi que Salomé. » Quand il était en Galilée, c'était elle qui l'avait suivi en étant à son service. Il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Il y a deux grands points que je dois travailler avec vous ce matin pour mieux connaître cette Marie, cette troisième Marie. Je ne reviens plus sur Marie de Magdala, je l'avais appelée la femme aux trois parfums. J'espère que vous étiez là, sinon vous pouvez reprendre les CD ou écouter sur Internet. Pour Marie, la maman de Jésus, on l'a quittée lorsque certainement elle était effondrée à la croix sur les épaules de ses deux amis, Marie, femme de Clopas, qui était également ce que la Bible appelle sa sœur, et Marie de Magdala. Le lendemain, enfin 2 jours plus tard, ça c'était le vendredi, le dimanche matin, Marie, la mère de Jésus, n'avait pas plus de force. Elle n'avait pas pu se rendre au tombeau, vous vous rappelez? Et elle était restée chez elle, mais Marie de Magdala avait vu le Seigneur. Et elle était revenue en disant, c'est incroyable, on a vu le Seigneur. Et plusieurs textes nous disent que Marie, femme de Clopas, était également avec elle, l'a accompagnée pour les aromates, qui n'ont jamais servi d'ailleurs, le fameux troisième parfum qui n'a jamais servi. Alors j'attaque ce premier point, Marie, sœur de Marie. Ok, on est en Palestine, presque toutes les femmes, quand elles sont l'aînée d'une famille, s'appellent Marie, Myriam en hébreu. Donc quand vous avez une fille, la première, 9 fois sur 10, c'est une Myriam. Après, vous pouvez commencer à faire de l'originalité dans les prénoms une fois que vous avez réussi à placer le premier, c'est Marie. Marie, sœur de Marie. Il est dit qu'elle vient de Galilée. Ça veut dire qu'elle vient du même endroit que Marie de Nazareth. Ok ? C'est logique ou pas ? Oui. Si elles sont sœurs, si elles sont de la famille, elles habitent en gros dans la même région, la région de Galilée. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Il y a un débat, c'est là où je vais commencer à en perdre. Il y a un débat entre Saint Jérôme et Eusèbe de Césarée. C'est les premiers auteurs qui ont commenté cette femme, cette Marie, sœur de Marie, la maman de Jésus. Et ils se sont un petit peu divisés. Saint Jérôme à l'époque pris la Bible au sens complètement littéral. Et Saint Jérôme disait, c'est la sœur, mais la vraie sœur, sœur de sang de la maman de Jésus. Alors que Eusèbe de Césarée disait non, 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 non. Les textes et les traditions orales qui se transmettaient, on est très très peu après la mort du Christ. Hein. Et Eusèbe de Césarée dit, non, cette Marie n'était pas la sœur, mais c'était la belle sœur. Pourquoi ? Parce que dans la tradition orientale, les familles ne sont pas comme des familles occidentales, c'est plus des familles à l'africaine, comme on voit aujourd'hui. Les liens peuvent être recomposés ou peuvent être renommés. Si c'est la famille, ça s'appelle sœur, ça s'appelle frère. Et donc, il est possible, c'est la thèse de Zeb de Césarée, que cette Marie soit en fait la belle sœur de Jésus. Dans ce cas-là, Clopas, son mari, ça c'est sûr. Si elle est la belle sœur, il est le frère de qui ? Alors l'hypothèse de Zeb de Césarée, c'est que Clopas est le frère de Joseph, du père de Jésus, du père adoptif de Jésus. En faisant toutes les recherches, et ce que je vais vous proposer ce matin, à chaque fois je vais mettre des guillemets et des hypothèses, mais je pense vraiment, c'est ça, je suis beaucoup plus convaincu par l'hypothèse de Zeb de Césarée. Premièrement, quelque chose de tout simple, c'est que ça ne me viendrait pas à l'idée d'appeler mon deuxième fils Ethan. Vu que le premier s'appelle déjà Ethan. Ça serait quand même bête dans une famille, lorsque vous avez deux filles, d'appeler la première Marie et la deuxième sa sœur Marie. C'est un petit peu compliqué quand vous les appelez à table. Marie, tu viens ? Il faudrait forcément dans ce cas-là un deuxième prénom, or apparemment ce n'était pas le cas. Donc moi je crois vraiment que ces deux femmes-là ne sont pas forcément des sœurs, mais seraient plutôt des belles sœurs. Vous me suivez, on va dans Jean 19, on revient dans Jean 19 au verset 26. Donc 25, il était près de la croix, se tenait Jésus, de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Verset 26, regardez. En voyant sa mère à côté d'elle, le disciple qu'il aimait, donc en voyant sa mère et à côté d'elle, pardon, le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils ». Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Ok. Vous êtes d'accord avec moi ? Le disciple que Jésus aimait, là, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, c'est Jean. C'est Jean qui écrit l'évangile, c'est une périphrase pour éviter de dire « moi ». Le disciple que Jésus aimait, parce que Jean était ce qu'il était uniquement parce que Jésus l'avait aimé. Et donc Jean dit à la croix, droit dans les yeux, devant sa mère brisée, Jésus parle à Jean et parle à Marie, la maman de Jésus, et lui dit, « Femme, voici ton fils. Et fils, voici ta maman. » Et il est dit après, « À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. » Vous êtes toujours d'accord là ? Ok. Comment ça se fait que Jésus a dit ça à Marie ? Naturellement, au Moyen-Orient, s'il y a un mari, la femme, elle est chez le mari. Donc ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que Joseph est décédé. Parce que sinon, Jésus aurait dit, maman, rentre chez papa. Autre aspect qui me montre que Jésus a perdu son père, probablement assez jeune, c'est que s'il a environ 30 ans sur la croix, et que Joseph était plus âgé que Marie au moment où il l'a eu, c'est-à-dire que Joseph, de toute façon, a dépassé probablement les 55 ans, c'est-à-dire l'âge, l'espérance de vie à l'époque, et la probabilité que Joseph soit décédé est assez forte, parce qu'il finalement, il était assez âgé. Deuxième aspect, deuxième preuve aussi, c'est qu'à partir du moment où Jésus était dans le temple à 12 ans, la Bible ne fait plus jamais référence à Joseph, vous le savez ça. Son père et sa mère l'avaient paumé à Jérusalem, et depuis, on n'entend plus jamais parler du papa Joseph adoptif. Ok. Et il y a des textes, quand on parle des frères et des sœurs de Jésus, à chaque fois, je vais vous le montrer tout à l'heure, on ne parle pas de Joseph. On parle de Jésus, de ses frères et de sa mère. Papa a disparu. Il n'est jamais mentionné. Et en fait, je me suis bien... J'étais très étonné de le voir, mais c'est quelque chose de net. Dans Marc 6, verset 3, il est dit, n'est-ce pas le charpentier, à propos de Jésus, fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? C'est-à-dire que on dit pas Jésus, fils de Joseph, le charpentier. On dit Jésus, le charpentier. Vous me suivez? Restez avec moi ce matin. Restez. Dites-moi oui, même si vous ne comprenez pas, juste pour me rassurer. Ça veut dire que Joseph, encore une fois, était certainement décédé parce que c'était le fils qui avait pris le boulot du papa. Alors, je reste sur l'idée que certainement, Jésus, à un moment, a perdu son papa. Probablement assez jeune, du moins après ses 12 ans. D'où la fameuse hypothèse de Zèbe de Césarée. Cette Marie, troisième Marie, a certainement récupéré Jésus et sa maman chez elle. Pourquoi? Avant, là je parle entre 12 et 35 ans. Pourquoi? Pour une simple raison, parce que quand un papa décède dans une famille, la tradition juive, vous voyez ça partout dans l'Ancien Testament. Si un frère décède, la femme qui est laissée veuve est prise en charge par le frère qui reste en vie. Vous avez ça encore dans certaines coutumes, dans certains pays. Mais c'était très très net. Vous avez plus. D'ailleurs, ça a posé des problèmes dans l'Ancien Testament. Et vous vous rappelez même les pharisiens qui à Jésus ont dit, pardon, les sadducéens, ils disent, oh, la résurrection, c'est n'importe quoi, la preuve. Un jour, un homme avait une femme, etc. Elle est décédée, etc. Vous vous rappelez l'histoire? Et dit, et quelle sera la femme de cet homme-là à la fin, vu qu'il a et tous les frères sont morts? Parce que à chaque fois, la femme, à l'époque, était récupérée, était protégée, c'était la sécurité sociale, elle allait dans la famille de l'autre frère. Du coup, ça voudrait dire, alors ça me choque parce qu'au début, je suis protestant, oui, je ne suis pas catholique, profondément. Mais ce n'est pas parce que c'est catholique que c'est toujours faux, non plus. Et bizarrement, contre mon intuition, à force d'étudier la Bible, il est possible, je mets des guillemets, il est possible que pour une fois mes amis catholiques aient raison et que Jésus n'ait pas forcément des frères qui soient des vrais frères et sœurs. Il est possible que Marie ait été récupérée par sa belle-sœur et son beau-frère, et que les enfants aient été élevés ensemble. Et que du coup, ce qu'on appelle les frères et les sœurs de Jésus, mais je reste sur de l'hypothèse, soient ceux qui ont été élevés avec lui. C'est-à-dire ses frères, enfin, c'est les fils et les filles du frère de son père. Et là, j'ai vu cousin, ouais, si vous voulez. Et ça donne frère. Enfin, moi, j'ai un ami qui vient du Rwanda. Pendant le génocide, sa famille a été massacrée. Il a pris l'avion. Il y avait un petit garçon qui restait. Il s'est précipité. Il a ramené l'enfant dans l'avion. Et il a dit, tu seras mon fils. C'est son cousin, mais ça sera son fils. Et c'est juste indigne d'appuyer quelqu'un. Mais toi, tu n'es pas le vrai enfant d'eux. Ça serait indigne, vous voyez. Et je pense vraiment qu'il est tout à fait normal, dans ce cas-là, que quand on parle de Jésus, on dit ses frères et ses sœurs, qui peuvent être les descendants, en fait, du frère de Joseph. Bon, ça c'est fait, on est d'accord? Dans ce cas, les frères de Jésus sont les enfants du frère de Joseph, Clopas, élevés ensemble tant que Jésus n'était pas en âge de prendre soin de maman. Et à partir du moment où Jésus a été grand et qu'il a commencé son ministère, là, c'est tout à fait possible que c'était Jésus qui gérait Marie. Et que quand Jésus meurt, du coup, quand Jésus meurt, il n'y a plus personne pour prendre soin de Marie. Donc c'est normal qu'il confie sa maman. Il ne va pas la reconfier à une famille de vieux, hein, parce qu'ils ont tous pris de l'âge. Hein. Donc là, il la confierait à Jean, le disciple, pour en prendre soin. On peut aller plus loin, c'est bon? Alors, j'arrive à ce fameux texte de Matthieu 13, 54. Il retourna dans la ville où il vécut. On parle de Jésus. Il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue. Son enseignement les remplissait d'étonnement, si bien qu'il disait « Mais d'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? N'est-il pas le fils de Marie ?» Là, on ne dit pas de Joseph d'ailleurs, hein, remarquez. « Le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude. Ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous ? Mais d'où a-t-il reçu tout cela ?» Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa propre famille, qu'on refuse d'honorer un prophète. Aussi ne fit-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Et le thème de ce matin, pour moi, c'est quand tu as été élevé avec Jésus, comprenez ce que je veux dire, quand tu es né dans une famille où maman priait à table, où papa lisait sa Bible, où tu allais à l'église, que tu le veuilles ou pas, parce que c'était dimanche, que tu as été à l'école du dimanche. Mon point est le suivant. Tu es tellement habitué à traîner dans la proximité de Jésus que ton cœur est facilement incrédule. Et en fait, quand tu es né dedans, des fois c'est dur de se convertir. C'est pour ça que beaucoup de vos enfants ont du mal. Parce qu'ils ont du mal comme les frères ou les cousins de Jésus, que j'appellerai les frères, parce qu'ils l'ont vu grandir. Et quand vous avez vu, quand vous avez, je ne sais pas moi, joué au bâton, quand vous êtes allé faire la guerre avec des petites épées, bah, c'est dur de donner votre cœur à celui qui un jour, avec lequel vous avez joué à la balançoire de l'époque. Je ne sais pas comment c'est, mais bon, vous comprenez l'idée ? Maintenant, je vous pose la question, mettez-vous à la place. Si vous aviez grandi avec Jésus, vous l'auriez appelé votre Seigneur et votre Sauveur ? Au début, tu dis, tu rigoles ou quoi ? Pour qui tu te prends ? Et c'est très dur, et c'est ce que vivent vos enfants ! C'est ce que vivent vos enfants, ils sont nés dans l'Église ! Ils ont tellement, ils ont l'impression de tout connaître de Jésus. Ils connaissent toutes les routines de l'église. Ils savent quand le pasteur va commencer de prêcher, quand il va arrêter, quel est le chant que ce leader de louange aime. Ils savent exactement si c'est un tel, qu'est-ce qu'elle va dire dans sa prière, combien de temps la prière va durer, qui a plutôt tendance à donner un don de prophétie et qui ne le donnera jamais. Ils sont nés dedans. Et du coup, ils sont durs. Comme moi, je suis né dedans, donc je peux vous le dire. Des fois, on est durs. Et c'est pour ça que Jésus, quand il retourne en Galilée, les gars, ils le challengent tout le temps. Ouais, mais pourquoi ? Fais un plus grand miracle. Et c'est ce qui va se passer. Et il leur demandait, et Jésus ne put faire là quasiment aucun miracle. Oh, ça devient bon. Mais c'est pour ça que dans les églises, des fois, quand il n'y a que des enfants de chrétiens, il ne se passe pas grand-chose comme miracle. Parce qu'on est gavé de Jésus. Et du coup, ils n'ont pas faim et soif de Jésus. Ils sont en train de challenger, est-ce que c'est ça qu'il faut faire dans l'église ? Ils parlent église, ils parlent institution au lieu de parler relation avec Dieu. Vous êtes encore là, c'est bon ? Ça me fait bizarre, je dois changer tous mes calculs avec la montre, là, je suis paumé là. C'est bon, j'ai encore un tout petit peu de temps. Deuxième point, femme de Clopas. Ok, donc c'est... Peut-être, alors juste tu me fais un rappel Christian si tu veux bien, tu peux mettre les frères de Jésus, la diapo sur les frères de Jésus. Non parce que sinon je vais vraiment vous perdre, parce qu'après ça va devenir vraiment compliqué quand on va croiser tous les tableaux. Juste la diapo, les frères de Jésus, voilà. Matthieu n'est-il pas, dans Matthieu 13, 55, n'est-il pas le fils des charpentiers, donc le fils de Marie. Mais du coup on ne sait pas quelle Marie il s'agit. Hein. Il se peut que ça soit la belle-sœur. Jacques, Josèse ou Joseph, c'est pareil en hébreu, Simon et Jude. Ça, c'est sûr. Hein. Là-dessus, j'ai aucun risque. Je suis sûr que ce que j'ai marqué, c'est vrai. Ok, on arrive maintenant au fameux Clopas. C'est là que ça devient génial. Pour ceux qui aiment bien réfléchir, ça devient génial. Parce que Clopas, c'est le mot grec, ok ? Le grec. Vous savez qu'à l'époque, on est sous l'Empire romain, ils ont un prénom juif et ils ont été relookés avec un prénom romain. De la même façon qu'en Afrique, à Kinshasa, j'ai appris qu'il y a un moment où, quand il est arrivé, il a changé tous les prénoms de tout le monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est d'accord. Il y en a qui ont eu prénoms changés. Voilà, parce que le président avait dit « Ah, on va faire ça à l'africaine maintenant, vous changez tous vos prénoms européens, il y en a marre, etc. » Donc c'est quelque chose qui arrive. Et c'est bien quand même, hein. Vous voyez que c'est ce que vous vivez, ils l'ont vécu aussi. Du coup, Simon en hébreu, Shimon, qui est Shimon Pérez par exemple aujourd'hui, ça a été transformé en Petros grec, Simon, Pierre. Pierre, c'est le prénom grec. Quand vous appelez Lévi, c'est vous êtes juif, hein. On est d'accord, hein, tribu de Lévi. Par contre, quand vous êtes relooké, ça donne Matthéos, ça donne Matthieu. Parce qu'en plus, comme vous récoltez les impôts, vous êtes plutôt du mauvais côté, donc vous avez intérêt à changer de prénom. Et ils sont tous comme ça, à avoir une double. Et c'est pour ça que c'est la galère. Et il faut faire vraiment une étude biblique, sinon vous vous perdez. Et quand vous faites la liste des disciples, à chaque fois, il y a des listes avec la liste en hébreu, en araméen, et vous avez la liste en grec. Et du coup, vous êtes perdu. Par exemple, Nathanaël, qui a un prénom juif, il disparaît de la liste. Mais dans une autre liste, vous le retrouvez sous le nom de Barthélemy, qui est le prénom grec. Ok, c'est bon, vous êtes encore là. Alors, le fameux Clo-Clo, pas Claude François, Clopas. Clopas, c'est le nom grec. Kélopa. Et ça donne, en araméen, Alpai. Vous êtes toujours là? Alpai. Alpai qui donne, dans votre version, vous, parce que le mot grec, on ne va pas le prendre non plus complètement, hein. Le nom araméen. Nous, ça donne Alphée en français. Mm-hmm. Donc, ça serait la femme de Clopas, surnom, enfin, nom juif, Alphée. Donc, si c'est Marie, la femme d'Alphée, ça veut dire que un de ses fils a cru en Jésus, c'est Jacques. Parce qu'il est dit dans Matthieu 10, verset 2, voici les noms des apôtres, d'abord Simon, appelé Pierre, puis André son frère, première fratrie. Deuxième fratrie, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Troisième, Philippe et Barthélemy, donc c'était Philippe et Nathanaël. Nathanaël, celui qui était sous le figuier, etc., je passe. Ça, c'est pas des frères, c'est des amis. Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Vous voyez, Matthieu, en parlant de lui-même, il ose dire ce qui fâche. Il anticipe pour pas qu'on lui fasse de remarques, peut-être. Jacques, fils d'Alphée. Alors, Thaddée, c'est le nom grec de Jude. C'est pour ça que dans d'autres versions, vous avez Jude. Ok. Dans Luc 6, 15, Matthieu, la même liste. Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, le fils ou le frère de Jacques. Donc, j'ai un tout petit doute là-dessus. En fait, j'ai tout vérifié avec... Là, ce n'est pas la même version. Là. Tu es où, là? Il faut vérifier ce que je dis est exact. C'est bien Luc 6, verset 15. Bon, ce n'est pas grave. Je comprends que ce soit un petit peu difficile. Jude, au verset 16. Le verset 16. Super, c'est juste le verset d'après. Un verset de plus. Eh oui, sauf qu'il n'a pas dû être rentré, mon pauvre. Donc, du coup, ok. Donc, le fils ou le frère, il y a un bug en hébreu. Il y a un bug en hébreu, parce que Matthieu, c'est araméen à la base. Et il y a un bug, ce qui fait que la Bible hostie, qui est la Bible catholique, le prêtre hostie, là, il était carré. Hein. Il prenait le mot au sens littéral le plus possible. Lui, il dit que c'est le frère de Jacques. La Bible Semeur dit que c'était le fils de Jacques. La Bible de Chouraki, araméen, donc l'auteur juif très connu qui a fait une Bible éponyme, Chouraki dit, on ne peut pas trancher si c'est le fils ou le frère. Donc du coup, généalogie s'il te plaît, sur Alphée. Sur Alphée. Ça c'était l'autre. Sur Alphée, ça donnerait... C'est pour garder le suspense. Pour vous. Alphée, autre nom possible. Peut-être Clopas, marié avec quelqu'un, donc là la généalogie ne nous permet pas de dire qui c'est. Il y a un certain Jacques. Je dis le mineur, c'est pour vous donner. Pour l'instant, gardez Jacques, d'accord? peut-être des autres frères, on ne sait pas qui. Et Jude, il faudrait mettre un point d'interrogation, peut-être un Jude si c'est le frère. Ok. C'est bon là-dessus ? Troisième partie et dernière partie. Dans Matthieu 13, on a vu que quand il est retourné en Galilée, ça a été chaud. Parce que les gens ne voulaient pas croire en Jésus. Ils avaient passé trop de temps avec lui, ils étaient nés, ils avaient été élevés ensemble, et il ne put faire là très peu de miracles. D'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles? Ça les trouble. Ils savent, parce que des gens leur ont raconté que Jésus a fait des miracles, ils n'en ont pas vu eux-mêmes. Et là, je parle aux enfants de chrétiens. C'est le gros problème des enfants de chrétiens. Ils ont entendu que Jésus avait fait des miracles. Lorsque Jésus s'était déplacé dans les autres villages, ils savent que Jésus guérit des malades à Kinshasa. Ils savent que Jésus a guéri une grand-mère ou a délivré une grand-mère en Normandie. Ils savent que Jésus a fait ceci, cela, mais pas chez eux. Pas dans leur église locale, et peut-être toi qui écoutes ce message, pas dans ton église à toi. Donc tu te dis, ah, moi je n'ai pas vu. Je suis né dedans, mais je n'ai pas vu les miracles. Alors tu sais qu'il en a fait, mais tu as quand même du mal à croire parce que toi-même tu n'y étais pas. Alors dans Jean 7, verset 2, vous savez, quand on est élevé dans une famille, enfant de chrétien, né dedans, bercé dedans, des fois, on veut pousser Jésus et on provoque. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui font des crises d'ados où ils ont envie de tester les limites dans l'église et ils vont tester les limites hors de l'église. Et peut-être qu'il y a une maman qui est aujourd'hui en train de dire « Oh là 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 là, si tu savais, pasteur, c'est exactement ce que je vis à l'heure actuelle. Mon fils veut que du fun, il veut tester, il est d'accord de venir à l'église à condition qu'il y ait des miracles. Et il est assez arrogant face à Jésus. » Regardez ce qui s'est passé au Jean 7, verset 2. « Après cela, Jésus continue à parcourir la Galilée. Il voulait éviter en effet la Judée, où les autorités juives cherchaient à le supprimer. Cependant, on se rapprochait de la fête juive des cabanes. Ses frères lui dirent alors, « Tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée pour que là aussi tes disciples puissent voir les œuvres que tu as accomplies. » Quand on veut être connu, on n'agit pas avec tant de discrétion. Et puisque tu accomplis de si grandes choses, fais en sorte que tout le monde te voit. J'ai l'impression d'entendre un enfant de chrétien, quoi. En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Donc ça veut dire que dans la famille, il y a une grande partie qui est restée au village et ne voulait pas en entendre parler. Jésus leur répondit, « Le moment n'est pas venu pour moi. En revanche, pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde n'a aucune raison de vous haïr. Mais moi, ils me détestent parce que je témoigne que ces actes sont mauvais. Vous, allez donc à la fête. » C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent du fun. Ils veulent de la liberté. Ils veulent bien de la religion à condition que ça bouge, nanana, etc. Et que l'église, ça soit de la fête. Mais sinon, ça ne les intéresse pas trop d'aller à la réunion de prière. Pour ma part, je n'y vais pas encore car le moment n'est pas encore venu pour moi. Après avoir dit cela, il resta en Galilée. Cependant, quand ses frères furent partis pour la fête, il s'y rendit lui aussi, mais secrètement et sans le montrer. Alors j'arrive au dernier point. Luc 24, 9. On parle de cette femme qui est là, la troisième femme. Il est dit, au verset 9, « Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11 ainsi que à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et quelques autres des femmes qui étaient avec elle portèrent la nouvelle aux apôtres. » Donc Jacques, c'est un des disciples. Jacques est distinct de Jacques Zébédée. Vous connaissez Jacques Zébédée ? C'est Jacques, fils du tonnerre, Boanerges. C'est un des Jacques et Jean, c'est eux qui voulaient, pardonnez-moi l'expression, mais cramer les Samaritains. Ils font pas dans la douceur, eux. Et ils étaient très, très enthousiastes, très, très en feu. C'est parti des trois personnes avec Pierre qui sont allées sur la montagne de la Transfiguration. Ils ont progressivement été changés dans leur caractère. Mais Jacques Zébédée est appelé Jacques le Majeur. Pourquoi ? Parce que c'était le plus vieux. Et en fait, le Majeur, ça veut dire Jacques le Vieux. Par opposition à Jacques, fils de Clopas, qui lui, ou fils d'Alphée, qui lui est Jacques le Jeune, le Mineur. On l'appelait le Mineur parce que c'est C'est le gamin par rapport à l'autre, pour séparer les deux. Et Jacques le Majeur, ce n'est pas ce que j'étudie aujourd'hui, Jacques le Majeur, c'était celui qui est décédé sous l'épée d'Hérode Agrippa, qui l'a fait décapiter. Vous vous rappelez cette période où Pierre a cru que c'était sa dernière heure, parce que Jacques le Majeur, Jacques l'aîné, Jacques Zébédée, est mort, premier disciple à être mis à mort, assassiné à Jérusalem par Hérode Agrippa. Et c'est là où d'ailleurs toute l'Église a commencé à se disperser à cause de cette première persécution à Jérusalem. J'arrive, je reviens sur qui est ce Jacques le mineur. Dans Galates 1, au verset 29, l'apôtre Paul en parle. Et il nous dit, « Je me suis rendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi. Je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis retourné à Damas. Et ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, chez qui je suis resté 15 jours. À part lui et Jacques, le frère du Seigneur, je n'ai rencontré aucun apôtre. » C'est-à-dire que le frère du Seigneur était un apôtre. Et du coup, ça veut bien dire que Jacques, le mineur, était bien assimilé à un frère du Seigneur. D'où l'hypothèse que c'était bien Marie qui avait été récupérée, qu'ils avaient été élevés ensemble et qu'ils étaient considérés comme frères. À plusieurs endroits, un autre endroit un peu plus loin, 1 Corinthiens 9, verset 5, il est dit « N'avons-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne comme les apôtres, les frères du Seigneur et Pierre ?» Ça veut dire qu'il y a plusieurs apôtres, au moins 2, puisqu'ils sont les, qui sont des frères du Seigneur Jésus. Prise de tête avec Jacques. Paul et Jacques, c'est un peu explosif. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé. Moi, je me régale parce que c'est ma passion. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul est en train de faire des choses hallucinantes. C'est son voyage missionnaire. Il y a des conversions, il y a des miracles. Et il y a des émissaires de Jérusalem qui viennent et qui disent « Stop, on arrête tout ici. Campagne d'évangélisation, pliez le chapiteau orange. Ici, il y en a qui ne sont pas circoncis. » L'apôtre Paul dit « Arrêtez, c'est une campagne géniale. On dû envoyer Paul à Jérusalem pour s'expliquer avec les colonnes de l'Église. » Et on lit qu'une des colonnes de l'Église, dans Galates 2, verset 9, « Ainsi Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, qui ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'a confié une tâche particulière, etc. » L'apôtre Paul a dû retourner à Jérusalem. Il y avait 3 big boss là-bas. Pierre, Jacques, le mineur, parce que l'autre était décédé, et Jean. Donc Jacques, fils de Clopas, certainement un des premiers apôtres, donc appelé aussi fils d'Alphée, était là et gérait. Alors maintenant, il est quelque chose d'étonnant. Pourquoi Jacques le mineur a eu une position aussi importante ? Restez, c'est presque fini. Jacques le mineur a eu une position aussi importante parce qu'il a eu une révélation particulière de Dieu. En fait, vous savez que l'apôtre Paul a vu Jésus sur le chemin de Damas. Et il est dit que Pierre a été, vous vous rappelez quand Pierre est allé au tombeau, etc., il a eu une visitation quand ils étaient sur la plage et qu'ils avaient faim et que Jésus leur a préparé du poisson grillé, vous vous rappelez ? C'est pour ça que je vous demande de connaître votre Bible, là, je suis désolé. Du coup, je me dis, mais pourquoi Jacques, il a une telle aura, quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'il a été upgradé tout d'un coup à un rôle de colonne de Jérusalem ? Il est dit, et c'est l'apôtre Paul qui nous donne un indice, il dit que, 1 Corinthiens 15, verset 7, ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les autres apôtres. Oh, c'est trop bon. Ça veut dire que Jésus savait que pour quelqu'un qui est élevé avec lui, il a besoin de plus pour croire. Et ça, c'est ce qui peut arriver à tout un enfant de chrétien. C'est que tu entends pendant des années Jésus, tu le suis, tu viens à l'église, tu pries un peu, etc. Mais tu n'as pas eu ton choc, ta rencontre privée avec Dieu. Et Jésus a fait une invitation privée à Jacques, son frangin. Et lui a dit, Jacques, c'est moi, celui qui a été crucifié. Et à partir de ce moment-là, Jacques est devenu en feu. Et Jacques a dit, je bosse pour mon frère, pour mon sauveur. Et c'est là que Jacques a pris un rôle incroyable à Jérusalem. Et quand l'apôtre Pierre est décédé, ce qui était assez tôt finalement, c'est lui qui a repris en place l'église de Jérusalem. Et c'est pour ça que c'est lui qui donne les ordonnances. Et un petit peu plus loin, vous voyez dans Actes des Apôtres, Jacques a parlé devant tous quand l'apôtre Paul est venu. Et Jacques a dit, on ne va pas leur mettre trop de règles quand même à ces incirconcis. On ne va pas leur demander de se circoncire. On va leur dire simplement de s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles, de sang, etc. Vous vous rappelez ce texte ? Je n'ai pas le temps de tout lire, ça va trop vite. Mais c'est dans Actes 15, versets 13 à 21, vous lirez chez vous. Quand ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit « Maintenant, frère, écoutez-moi. » Donc c'est un big boss. Et puis un petit peu, Jacques continua, etc. Et puis il va envoyer Paul et Silas en leur disant « Allez, retournez, continuez la campagne d'évangélisation. » Jacques, il a fait le pont entre les judaïsants et ceux qui étaient d'accord que les païens soient touchés. Dans le Talmud, on retrouve Jacques le mineur. Ça, c'est bon aussi. Dans la tradition, vous savez, il y a la Bible hébraïque avec la Torah et puis les livres du Pentateuque, etc. Et puis, vous avez les traditions juives. Et on retrouve dans le Talmud l'histoire de Jacques le mine, en hébreu, qui est Jacques l'hérétique et qui était celui qui, à Jérusalem, a induit les frères juifs dans une fausse doctrine parce que c'était la doctrine chrétienne, parce que c'était la secte chrétienne. Et Jacques le mine, c'était le leader de la secte chrétienne, entre guillemets, c'est-à-dire parce que tous les chrétiens, c'était une secte à l'époque, parce qu'ils n'étaient pas juifs à Jérusalem. Jacques, fils de Marie de Clopas, est décédé en l'an 62. C'est marqué, c'est inscrit dans les annales, parce que, en fait, les Romains l'ont noté. Est-ce que vous vous rappelez de Festus ? Oh là 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 là, je vous ai complètement perdu. Festus, je suis désolé, aujourd'hui c'est... Festus, c'est le procurateur de Judée devant laquelle l'apôtre Paul a dû aller lorsque l'apôtre Paul était sur le point d'être mis à mort. Et Festus a fait appeler la foule et a jugé l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul a demandé à faire appel à Rome. Ce qui fait que Festus a dit, bon, je vais appeler mon copain le roi Agrippa et je vais le faire venir. Et ils sont venus, ils ont jugé Paul et puis ils ont dit c'est dommage parce qu'en fait on aurait pu le libérer. Festus en 62 est muté. Il est muté par Rome et il change de région. Et pendant quelques mois, il y a une vacance du pouvoir romain et Albinus, le nouveau procurateur de Judée, n'arrive pas. Pendant ce temps-là, il y a un mini putsch à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent à mort Jacques le mine. En 62, Jacques le mine, Jacques l'hérétique, leader de l'église de Jérusalem, est lapidé par ordre du grand prêtre Hanan ben Hanan. Là, les juifs sont d'accord avec ça. Ils l'ont lapidé parce qu'il avait distribué la fausse doctrine à Jérusalem. Et vous savez ce qui est dit ? C'est magnifique. Siméon. C'est possible de remontrer en blanc. L'image en blanc. Le grand-père, on ne sait pas qui c'est. Mais il y a Joseph qui s'est marié avec Marie et un enfant Jésus, ça c'est sûr. On sait que Alphée, Clopas, Marie, femme de Clopas, si c'est les frères de Jésus, ça veut dire que c'est tous, ils ont tous été élevés ensemble. Jacques, Jude, Joseph, Simon. Simon, on n'entend pas parler. Alors je me suis dit, tiens purée, celui, il ne s'est pas converti lui ou quoi ? Il faisait certainement partie de ceux qui n'avaient pas voulu croire au début. En 63, devient évêque de Jérusalem. Évêque, ça veut dire cadre, hein, c'est tout. Le frère de Jacques, Simon Ier, qui relève le flambeau et qui dit « Le frangin est mort, je relève pour Jésus. » Vous voyez, c'est jamais trop tard. Hein, jamais trop tard. Josès, j'ai rien sur lui. Il disparaît des annales, on ne sait pas s'il s'est converti, on ne sait pas s'il a suivi Jésus. Par contre, Jude, alléluia ! Vous lisez Jude 1:1 et vous lisez... Enfin, vous lisez, vous n'avez pas eu le temps de trouver, je suis d'accord. Jude 1:1, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés et qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Et Jude est à Jérusalem. Et Jude, c'est l'apôtre Jude. C'est pour ça que l'apôtre Jude aussi, pour ceux qui aiment bien un peu faire des études bibliques comparées, l'épître de Jude, c'est très judaïsant. Hein. L'épître de Jude, c'est pas mal la loi. Parce que ça faisait partie de la ligne dure, la ligne Jacques, Jude, fils d'Alphée ou fils de Clopas, comme vous voulez. Vous avez compris ? Ça veut dire que la famille de Jésus, waouh ! Ma question est, t'es né avec, est-ce que t'es encore sensible à Jésus ? Je parle à toi qui as passé tellement de temps dans une église que ton cœur est devenu dur comme de la pierre. y a une dernière chose. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, il apparaît à Marie de Magdala et à la maman Marie, femme de Clopas. D'accord ? Vous lisez dans Luc 24 une histoire merveilleuse. Vous apprenez dans Luc 24 qu'après avoir apparu aux femmes, il y a deux hommes qui marchent de Jérusalem vers Emmaüs. Et là, vous avez quelque chose d'étonnant. Comment ils s'appellent, ces deux hommes ? Eh bien, il y en a un, on n'a pas le nom. Mais on donne le nom. Clopas. C'est le nom grec, Talphée. Ça peut être le même. Je ne peux pas garantir. Mais quand je vois comment ils ont réagi, je sais que dans ce fameux Clopas, je me dis déjà pourquoi Luc dise le prénom alors que ça ne sert à rien de dire un prénom s'il le cite nulle part ailleurs. Pourquoi Luc... Oh, je vois que vous foncez les sourcils. Pourquoi Luc donne le prénom d'un des deux ? Ça ne nous sert à rien du tout. Sauf si ça veut dire qu'on connaît déjà le prénom. Moi, mon hypothèse, c'est que si Luc prend la peine d'écrire le prénom de ce gars-là, qui n'a rien fait de plus ni de moins que l'autre, c'est parce qu'il est connu. Et ce fameux Clopas, là, on termine avec ça, regardez, allons, on termine avec ça. Luc 24, verset 13. Après, on se quitte. Luc 24, 13. Je vous félicite d'avoir tenu jusqu'au bout. Luc 24, 13. Le même jour, deux disciples qui se rendaient dans un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. C'est marrant, c'est exactement comme les enfants de chrétiens. Ils sont avec Jésus et ils ne le voient pas. De quoi discutez-vous en marchant ? Ils s'arrêtèrent l'air attristé. L'un d'eux, nommé Clopas, c'est le même mot, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci »« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé de Jésus de Nazareth, c'est un prophète qui agissait et parlait avec la puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs et nos prêtres, nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et le clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui allait nous délivrer, qui allait délivrer Israël. » C'est-à-dire que c'est parti des disciples. « Mais hélas, voilà trois jours que cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe, nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais n'ont pas trouvé le corps et sont venues raconter ce qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il était vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans la gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse, puis en parcourant ceux des prophètes, etc., Jésus leur explique. Là, ils se prennent une prédication privée. Qu'est-ce qui se passe ? À la fin, il y a un appel, ils lèvent la main ? Non. Ils assistent à la prédication, encore blasés. Jusqu'à ce que Jésus prenne le pain, casse le pain. Je ne sais pas pourquoi, mais là. Mais nos yeux ne le voyaient-ils pas ? Il était avec nous depuis le début et on ne se rendait pas compte. Ils retournent à Jérusalem, ils sont en feu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Traîner dans une église ne vous sauvera jamais. Vous allez juste avoir une foi molle. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut accepter que Jésus passe de son cerveau à son cœur ? Accepter de dire, Seigneur, c'est vrai que je sais beaucoup de choses de toi, mais si je ne te connais pas, toi, non pas comme un frangin, mais comme mon sauveur. Marie, femme de Clopas, a toujours été là parce qu'elle avait su discerner dans le fils de sa belle-sœur, son sauveur. On va fermer les yeux ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ceux qui croient dès le début. Merci pour ceux qui, parmi nous, sont des Jacques. Ils démarrent bien et ils finissent jusqu'au bout en te servant. Merci pour ceux qui, parmi nous, sont comme des Judes. Ils mettent un peu de temps à démarrer, mais au final, ils te servent. Merci pour ceux qui, comme Siméon, ne démarrent pas du tout au début, voire critiquent Jésus. Puis, avec l'âge, mûrissent et disent, on va relever le défi et on va assumer notre foi en Jésus. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle ce matin qui veut dire, Seigneur, fais passer ma foi d'intellectuel à vivante. Seigneur, si je sais tout ça, ça ne me sert à rien si je ne te rencontre pas. Touche mon cœur, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus.
Rien que le sang de Jésus pour elle, je ne réclame. Rien que le sang de Jésus, rien ne peut sauver. Que le sang de Jésus pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Non, rien ne peut sauver.
Votre connaissance de Jésus ne vous servira à rien si vous ne pliez pas le genou et vous ne reconnaissez pas que votre Seigneur est sauveur à la croix. Ça ne sert à rien d'être dans l'église si jamais Jésus n'est pas votre Seigneur et sauveur. Que votre maman ait prié pour vous, qu'elle est une femme de Dieu qui n'a jamais abandonné, c'est formidable. Mais vous, vous devez vous engager. Mais vous, vous devez vous engager. Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Ce n'est pas héréditaire le salut, c'est un choix personnel. Alors je demande à toute personne qui s'est engagée avec Dieu, qui s'est mouillée pour lui par les eaux du baptême, et je le dis bien, qui s'est mouillée pour lui, parce que si ta maman s'est mouillée, tant mieux pour elle. Si elle a pris son baptême, tant mieux pour elle. C'est une femme de Dieu, tu as de la chance. Mais toi, est-ce que tu t'es engagée avec Dieu? Si c'est le cas, lève-toi à ta place maintenant. Les personnes désignées pour la Sainte-Seine vont passer la Sainte-Seine. Je pense que le jour où Jacques a pris la Sainte-Seine, ça a dû lui faire quelque chose. Il dit, c'était mon frère, le frère de Jésus. C'était mon frère qui a donné son corps à la croix pour moi. Je reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je reconnais qu'il est le Fils de Dieu. Pas seulement le frère, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Rien ne peut sauver mon âme. Pas le fait que je sois dans la famille de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme si ce n'est le sang de Jésus. Quand Jacques a vu Jésus ressuscité, transpercé le côté qui avait été ouvert, il a reconnu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et c'était l'apôtre de Jérusalem. Ce matin, Où est-ce que tu en es avec Dieu? Je voudrais donner aussi, parce que j'ai une pensée de Dieu pour une maman. Peut-être que tu es comme Marie, femme de Clopas. Toi, tu n'as jamais abandonné. Et tu dis, mais ce n'est pas possible, mes petits. Sur mes 4 gars, combien vont se donner au Seigneur? Sois fidèle jusqu'au bout. Je sais une chose, c'est que Siméon, qui avait démarré tard, a vraiment été un homme de Dieu après. Donc remets tes enfants au Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus.
Prenez le pain, gardez-le avec vous, on va le prendre ensemble. Prenez le vin, gardez-le avec vous, on va le prendre ensemble. On chante la gloire de Dieu qui nous a sauvés, qui nous donne un cœur nouveau.
Puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Qui brise toutes les chaînes, toutes les chaînes, qui brise 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 toutes les chaînes. les chaînes, qui brise toutes 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 les chaînes.
Alléluia. Prenez car ceci est mon pain, mon corps qui est brisé pour vous. Prenons ensemble le pain. La puissance est dans la personne de Jésus. Alléluia. Alléluia. Examinez vos cœurs, car celui qui prend cela d'une façon indigne prend un jugement contre lui-même. Vous annoncez la mort et la résurrection du Seigneur. La puissance est là, on va prendre ensemble le vin, le fruit de la vigne qui symbolise le sang de Jésus à la croix. Prenons ensemble le vin, s'il vous plaît. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Son sacrifice est suffisant, librement donné au Christ.